Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. La crise sanitaire, le couvre-feu, les confinements ont radicalement changé nos habitudes. Réfléchissez, il y a un an, comment se déroulait votre journée? Nos habitudes de consommation ont changé, l'épidémie a accéléré ces mutations. Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? Olivia Polski, adjointe à la maire de Paris en charge du commerce, est mon invitée. Elle sera accompagnée tout au long de cette émission par l'un des directeurs de l'Institut Paris Région qui a des données toutes fraîches à nous fournir et par le représentant des fondations du e-commerce. Paris Politique, c'est parti. Olivia Polski, bonsoir et merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Je le rappelle, donc vous êtes une des adjointes à la maire de Paris, Anne Hidalgo, en charge des commerces. Vous êtes accompagnée ce soir de Vincent Golin. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez scruté l'évolution de nos comportements. Rien ne vous échappe. Vous êtes directeur du département économie Paris Région. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer une image. On va la regarder ensemble. Plusieurs enseignes emblématiques de la capitale ont fermé ou sont en grande difficulté. Vous voyez sur votre écran les librairies Gibert dans le quartier latin. On vient d'apprendre, les quatre boutiques de la place Saint-Michel fermeront définitivement en mars 2021. Et vous avez aussi le mythique magasin Tati, à Barbès, qui a dû définitivement baisser son rideau. Olivia Polski, pour vous, ça dit quoi ces images de ce qu'est devenu Paris?
Alors, bien évidemment, on a un Paris qui est en grande difficulté. Aujourd'hui, nos commerçants souffrent beaucoup. Évidemment, ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui sont en alimentaire, mais tous les autres, effectivement, sont plus en difficulté. En ce qui concerne les deux enseignes que vous avez nommées, il y en avait notamment une qui était déjà en difficulté.
Avant le Covid,
notamment, je pense à Tati. Mais globalement, on avait vu que déjà dans l'habillement, il y avait comme un vrai sujet, puisqu'on avait des enseignes qui avaient commencé à partir. Pas qu'en France, d'ailleurs, pas qu'à Paris. C'était une tendance de fond dans le prêt-à-porter des grandes enseignes. Gap, pour pas la nommer, mais même Zara, H&M avaient fermé des boutiques aussi. Donc on voit bien que l'habillement était déjà en difficulté avant et l'est encore plus aujourd'hui.
Il y a l'habillement et puis aussi le livre.
Alors les librairies, c'est plus contrasté. Je pense que Gibert est un modèle particulier. Mais nous, on a des retours des librairies qui sont plutôt bons. Et d'ailleurs, même au niveau national, les libraires s'en sont plutôt mieux sortis que d'autres.
Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que ce sont des enseignes emblématiques parisiennes. On a l'impression que c'est une page qui se tourne, une époque qui se termine. Et surtout, certains ont peur qu'elles soient remplacées par des concept stores un peu impersonnels. Ça va être le cas?
Alors écoutez, nous, on a envie de lutter contre une uniformisation.
Et on lutte comment?
Alors notamment, la maire de Paris a annoncé qu'elle allait créer une grande foncière commerce. On a aujourd'hui des opérateurs qui font déjà de la revitalisation commerciale ou de la lutte contre la monoactivité. L'idée, c'est à la fois de les regrouper en un opérateur unique et puis surtout de pouvoir intervenir sur le territoire parisien un peu partout, même si, bien évidemment, financièrement, vous imaginez qu'on ne pourra pas racheter tous les locaux qui pourraient potentiellement être fermés, puisque dans certains secteurs, ils sont très alarmants.
Et surtout qu'avec la crise sanitaire, tout ça est accentué. Vincent Golin, je me tourne vers vous. La crise sanitaire a contribué à se débarrasser d'un certain Paris, d'un vieux Paris?
Je ne sais pas si on peut dire vraiment un vieux Paris, mais à accélérer une mutation qui était déjà engagée et qu'on a vu dans les exemples que vous avez cités, à savoir une montée des usages du digital et une transformation aussi des modes d'achat. Un secteur étant moins, notamment l'habillement, étant quelquefois un peu plus touché, avec des consommateurs qui sont moins dans l'achat, quelquefois dans la réutilisation, le partage aussi, tout simplement, plutôt que l'achat. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur Paris, se passe un deuxième phénomène, c'est que Paris, c'est une ville avec des habitants, mais c'est aussi une ville avec des salariés et c'est une ville avec des touristes. Or, une partie de ces enseignes que vous avez évoquées vivaient en tout cas aussi de cette fréquentation. Giberjeune, pour la citer, c'est une enseigne qui est connue aussi à l'échelle nationale et quelquefois internationale.
Mais aussi donc, très fréquentée par les Parisiens.
Bien sûr, mais elle a
une librairie de référence.
Un peu ce double statut par sa présence historique dans le quartier étudiant notamment. Donc c'est un petit peu ça aussi qui affecte aujourd'hui Paris, mais pas que Paris. On peut penser à d'autres quartiers qui sont dans d'autres coin de la région Île-de-France, tout simplement peut-être le quartier de la Défense, etc., où il s'est vidé pour partie aussi de ses salariés, aussi de certains touristes. C'est un grand quartier touristique, la Défense. Donc,
du coup, il n'y a plus de consommateurs.
Il y a moins de consommateurs. Et ceux qui sont là en télétravail, plutôt en présentiel, avec les horaires, ils sont obligés de partir rapidement. Donc l'achat-plaisir qu'on connaît, et qu'on connaît dans Paris comme dans d'autres lieux, aujourd'hui, il est très contraint par les horaires, la nécessité de reprendre soit son vélo, soit son mode de transport habituel pour retourner chez soi. Et donc, les gagnants, ce sont les territoires résidentiels aujourd'hui. Pour vous donner un chiffre, Paris, c'est environ 30% de l'emploi francilien. Donc, vous avez, sur les 6 millions, 30% qui sont dans Paris intramuros. Mais en termes de population, Paris, c'est 18%. Donc vous voyez, en fait, il y a 12% de personnes qui ont glissé et consomment aujourd'hui dans leur lieu de résidence, qu'ils redécouvrent, et pour lequel, quelquefois aussi, ils ont des avis positifs ou négatifs.
Olivia Polski, on imagine qu'à Paris, ça se traduit sur le terrain. Est-ce que vous avez un chiffre à nous communiquer sur ce qu'on appelle les petits commerces en difficulté ?
Écoutez, non, pas vraiment, parce qu'en fait, là, jusqu'à la fin de l'année, pour certains, ils étaient quand même encore, avec les aides de l'État et puis celles qu'on a pu leur apporter, encore, on va dire, avec un amortisseur. Et on n'a pas pu constater, par exemple, dans les chiffres, une augmentation des défaillances. Par contre, on est très inquiets, là, pour le premier semestre, parce que pour beaucoup, ils n'ont plus de liquidités, ils n'ont plus de fonds propres, et ils vont devoir continuer à payer des loyers. Et pour certains même, ils vont aussi devoir racheter des stocks, puisque je parlais de l'habillement. Donc c'est un vrai sujet, la question là des liquidités pour les mois qui arrivent. Et c'est là où nous sommes les plus inquiets.
Et est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés à Paris que d'autres ? Alors vous parlez de l'habillement, par
bien
exemple.
Évidemment, voilà, le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, de la nuit, de la culture.
On parle, oui, de la consommation quotidienne.
Ils sont très touchés, puisqu'il y en a qui sont fermés. Donc c'est évidemment pour eux très, très important. L'habillement, après, il y a des tendances de fond aussi qui ne sont pas liées au Covid. Mais typiquement, on voit progressivement se fermer les agences de voyage, les agences bancaires, les assureurs. On voit bien que tout ça, effectivement, est digitalisé de plus en plus.
Alors, justement, Olivier Gollin, je crois que vous avez des chiffres sur ça. Le côté digitalisation, recours à des grandes plateformes numériques, c'est de plus en plus prégnant. Vous avez constaté, depuis le début de la crise sanitaire, une évolution des comportements sur ce sujet ?
Quand on a interrogé les Franciliens en 2020 sur justement l'évolution de leur comportement, à la fois pendant les périodes de confinement, mais post-confinement, ils nous ont tous dit que, en tout cas, ils voulaient consommer beaucoup plus avec le recours à l'e-commerce. 37% d'entre eux veulent consommer plus par l'e-commerce. Mais en même temps, ils ont dit on s'intéresse aussi à des produits locaux et des produits made in France. Alors, sans trop exactement...
On va y revenir dans la suite de l'émission.
Ouais.
Mais bon, il y a quand même une tendance vers le numérique en ce moment qui s'explique aussi par la fermeture de certains lieux, etc.
Oui, c'est pas la fermeture qui provoque le numérique, c'est quelquefois l'inverse. C'est le numérique qui provoque la fermeture, les changements de consommation. Aujourd'hui, le consommateur, en fait, il est paradoxal. Il a été biberonné, si vous permettez l'expression, par les plateformes. Donc, des outils qui sont hyper puissants dans la relation client. Vous avez besoin de quelque chose, ça vous prend quelques secondes, vous avez le produit. C'est imbattable, imparable. Donc une partie des consommateurs ont cette habitude-là, et ont pris cette habitude-là, et ne voient plus trop l'intérêt d'aller chiner dans une boutique pour comparer. Et donc, ça justifie cette montée notamment de l'e-commerce en France.
On va retrouver en direct François Monboisse. Bonsoir, vous êtes avec nous via Skype. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Si l'on comprend bien, finalement, vous êtes le grand gagnant de cette crise. Les entreprises non, que vous représentez, en tout cas.
Non, je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'heureusement qu'il y a eu le commerce à distance pour que les consommateurs puissent acheter des produits. Parce que les produits dits non essentiels, ça va pendant une semaine à deux semaines, mais au bout de quelques semaines, le textile, ça devient important, etc. Et il y a effectivement beaucoup de gens qui ont amplifié leurs achats du e-commerce parce qu'ils ne pouvaient pas acheter ailleurs.
Olivia Polski, à Paris, pour les commerçants parisiens, le recours au e-commerce, ça vous inquiète ?
Ah bah, nous, on est pour que ils puissent, nos commerçants physiques, être ce qu'on appelle omnicanal, c'est-à-dire être aussi digitalisés, que ce soit un outil à leur disposition. Par contre, nous, on souhaite, enfin, la maire de Paris veut une ville avec des commerces, parce que vous imaginez demain une ville comme Paris, ou même toutes nos villes d'ailleurs, vidées de commerces avec des vitrines
Alors,
fermées.
Que fait-on justement pour que les plateformes numériques n'écrasent pas ces petits commerces ?
Je pense qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Outre l'aide à la digitalisation des commerçants indépendants, il faut à un moment donné aussi qu'il y ait une réglementation. Ça, c'est plutôt la loi qui va devoir à un moment donné intervenir. Il faut que la concurrence puisse être la même. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même une concurrence faussée. C'est-à-dire que ce sont des vitrines dématérialisées pour certains, mais ils ne payent pas de porte, contrairement à des commerçants indépendants. Enfin, la livraison n'a juste rien à voir en termes de coûts pour un commerçant indépendant et des gros mastodontes. Moi, je pense particulièrement au GAFA, d'ailleurs, là-dessus. Donc, à un moment donné, il va quand même falloir qu'on se pose la question, parce que c'est une question de société, de ce qu'on veut demain dans nos villes et dans nos vies.
François Monboisse, vous entendez le discours d'Olivia Polski ? Quelle réponse vous pouvez apporter pour éviter que finalement ces géants du numérique n'écrasent les petits commerces franciliens ? Vous êtes d'accord sur le constat ?
Non, moi je pense qu'il faut c'est passer d'opposer le e-commerce et les petites boutiques. Les petites boutiques doivent être présentes sur Internet. On a fait une enquête à la FEVAD, 70% des gens veulent que leur commerce de proximité et un accès à Internet qui puisse livrer sur Internet. Comme vous l'avez dit dans l'étude, effectivement, les gens ont l'habitude maintenant de se faire livrer. Comme ça, ils n'ont pas envie et le Covid ne va pas aider. Il y en a qui ont peur d'aller dans les magasins. Donc il faut que les petits commerçants puissent avoir un accès à Internet, soit à travers un site du quartier, soit à travers des plateformes, et il faut qu'ils aient un accès à Internet. Quand vous allez à Londres, tous les magasins à Londres ont une URL en bas de leur vitrine, toutes. Il faut que tous les commerçants parisiens puissent proposer aux clients qui connaissent le magasin, qui l'aiment bien, de se faire livrer directement.
Olivia Polski, je me tourne vers vous. C'est intéressant ce que nous dit François Monboisse. Est-ce que Paris n'aurait pas un petit train de retard du coup ?
Nous, là-dessus, on a essayé notamment avec la CMAEST, qui est notre société d'économics, de travailler sur cette digitalisation. On a mis en place une opération qui s'appelle COSTO, Connected Store.
Et ça fonctionne ?
Et pour ceux qui sont dans le réseau, oui, l'idée, c'était de mettre à la fois notre écosystème de start-up en relation avec nos commerçants de proximité pour qu'ils puissent bénéficier de ces outils-là. Mais on voit quand même bien que ce n'est pas la même chose d'être un commerçant indépendant dans cet environnement-là, que d'être un gros mastodonte dans le numérique.
Est-ce que vous demandez, par exemple, à François Monboisse de pouvoir discuter avec vous, de vous donner des garanties ?
Des garanties, je ne sais pas ce qu'il peut me donner comme garantie. Je pense que, il y a quand même un certain nombre de choses, notamment au niveau fiscal. On a quand même vu récemment, il y a eu un livre qui a été qui a paru d'un journaliste de Capital sur la question fiscale et notamment les GAFA. Je pense qu'il est temps qu'il y ait quand même des choses qui changent aussi bien au niveau européen qu'au niveau français pour que cette concurrence déloyale cesse.
François Monboisse, le mot de concurrence déloyale, vous le partagez ?
Non, mais je pense que ce n'est pas le sujet. Je pense que, effectivement,
c'est quand même un peu le sujet aussi.
Attendez, Amazon a mis son siège à l'étranger, mais comme Renault-Nissan a mis son siège aux Pays-Bas. L'Europe permet aux entreprises de mettre le siège où elles veulent et les entreprises, les grosses entreprises optimisent fiscalement. Et sincèrement, si vous taxez les livraisons d'Amazon, ça ne les empêchera pas de croître. Ça ne les empêchera pas. Ils sont énormes. Par contre, vous allez empêcher tous les petits commerces qui veulent faire du e-commerce de livrer parce qu'ils auront une taxe. Parce que vous n'allez pas faire une taxe uniquement pour Amazon. Donc je pense qu'il faut renverser le problème. Il ne faut pas être contre l'e-commerce. Il faut utiliser Internet pour que tous les commerçants qui le souhaitent puissent livrer sur Internet. C'est ce que vous avez fait superbement avec les restaurants à la mairie de Paris. Moi, j'habite en banlieue aussi. Leur permettre aux restaurants d'aller sur les marchés, de proposer leurs plats pour les livrer, c'est bien et les gens veulent aider les restaurants. Donc je pense qu'il faut utiliser, je l'ai vu dans le sondage, le fait que les trois quarts des gens veulent aider leur commerce de proximité pour faciliter le fait que les commerçants puissent livrer.
Olivia Polski, les bons conseils de François Maubois, vous allez les suivre ? Parce qu'apparemment, il n'est pas tout à fait d'accord sur le constat, mais vous donne des solutions.
J'imagine bien, vu les entreprises qu'il représente, qu'il n'est pas forcément d'accord. Mais ce que je dis juste, c'est que quand on est commerçant indépendant, on a un loyer, un pas de porte à payer qui n'a rien à voir à ce que les grandes plateformes ont à payer, elles, comme charge. Voilà. Donc il y a un sujet quand même de charges qui ne sont pas les mêmes, qui sont inégales. Et sur la question de la fiscalité, excusez-moi, je pense qu'effectivement la fiscalité d'un commerçant indépendant n'est pas la même quand on peut aller se permettre d'aller au Luxembourg pour payer des charges différentes.
Alors concrètement, je suis un commerçant parisien, on va dire, je sais pas, un libraire par exemple. Si j'ai envie de me digitaliser, quels outils j'ai à ma disposition? Quelles aides vous pouvez m'apporter? Est-ce que ça va être rapide, faisable? Est-ce que ça va être rentable?
Alors, sur la digitalisation des libraires, il y a déjà quelque chose qui a été créé il y a un certain temps par des libraires parisiens, parce que ça s'appelle le Paris des libraires, et nous les subventionnons pour effectivement les aider. L'idée, c'est qu'ils puissent, justement face à Amazon, offrir une plateforme alternative. On a aussi, effectivement, la région Île-de-France a fait une aide à la digitalisation, l'État a fait une aide à la digitalisation. Nous, on a fait aussi un appel à projet qui s'appelle « Relancer mon entreprise autrement » pour pouvoir aider justement les commerçants, les TPE-PME dans la période à la fois s'adapter au Covid physiquement, mais aussi permettre une digitalisation. Et on va c'est un appel à projet qui était d'un montant de 7 millions d'euros et on va recommencer cette année en 2021 pour aider justement nos commerçants et nos TPE-PME.
François Maubois, vous vouliez réagir, je vous ai vu sur mon écran faire une petite tête.
C'est très bien, il faut aider, exactement comme elle le décrit, tous les commerçants à aller sur Internet.
Donc c'est génial, vous êtes d'accord?
Oui, oui. Non, mais je dis, il ne faut pas se focaliser sur Amazon. C'est un géant, oui, c'est vrai, qui est à l'étranger, c'est vrai, mais c'est le seul. Cdiscount est en France, la Fnac est en France, etc. Internet doit être utilisé par tous les commerçants pour permettre de livrer les clients et pas vu comme un ennemi. C'est ça que je veux dire.
Merci François Maubois. Vincent Golin, aussi, il faut que les consommateurs suivent. Ils sont prêts pour le click and collect?
Oui,
c'est aussi une nouvelle façon de consommer qui est un peu particulière.
Oui, alors ils sont prêts pour beaucoup de choses. En effet, le click and collect, quand on est plutôt en grande banlieue, c'est plutôt le drive qui est le mode qu'ils vont utiliser. À Paris, ce sera, et en proche couronne, c'est aussi la livraison à domicile. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Pour revenir un petit peu sur le débat précédent, je crois qu'il faut avoir en tête quand même que la digitalisation, ça fait longtemps qu'on en parle et il y a des outils qui sont mis en place. Moi, il y a de nombreux, j'avais travaillé avec la CCIP là-dessus, Chambre de commerce. Mais c'est un processus qui est lent. Parce qu'en fait...
On ne va pas en voir tout de suite les effets.
C'est-à-dire qu'il y a des générations qui sont habituées à ça, puis il y a des générations qui ne sont pas du tout habituées au digital, et pour lesquelles il y a un temps d'apprentissage qui est très long, et quand ils sont proches de la retraite ou à quelques années de la retraite, ils ne font pas quelquefois cet effort-là. Donc finalement, ils voient un peu cette transformation devant eux, et des pas de porte qui se s'ouvrent qui se ferment autour d'eux. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, quoi. Donc, or, les plateformes numériques, c'est vrai qu'elles sont, dès le début, elles sont digitales, et elles sont très orientées clients, très orientées consommateurs. Cela dit, pour répondre complètement à votre question, il y a, dans les nouveaux comportements, beaucoup de choses autour de l'achat de proximité. Ça peut fonctionner sur les boutiques. On a vu aussi beaucoup de choses sur l'alimentaire. C'est-à-dire que une partie aujourd'hui des franciliens, parisiens, franciliens, grands parisiens, ont envie d'acheter local. Et ça, c'est quand même un élément important.
Et on va y revenir dans un tout petit instant.
D'accord.
Juste avant cela, François Maubois, je me tourne vers vous parce qu'on a vu que, donc en effet, le développement numérique des petits commerces avait un intérêt, que les clients, peu à peu, pouvaient s'y convertir. Est-ce que, par exemple, on pourrait voir une boulangerie sur Internet? Est-ce que ça, c'est le futur?
Non, je ne sais pas si c'est le futur, mais c'est pratique si les gens connaissent leur boulanger, l'aiment bien, que s'ils n'ont pas envie, ils ne peuvent pas aller faire la queue, aller acheter le pain, ils puissent le commander. Et qu'il y ait un système de livraison mutualisé qui puisse le faire. Et les gens demandent, ça c'est ce qui vient de dire. Et les gens, je répète, à trois quarts des gens demandent que leurs commerçants qu'ils connaissent puissent offrir la possibilité, quand ils en ont besoin, de livrer. Et il y a une habitude qui est prise, on n'y peut rien, hein, c'est tous comme ça, de se faire livrer. Les gens ont l'habitude maintenant de se faire livrer.
Olivia Polsky, un pari où en effet on se fait livrer, où il y a beaucoup de click and collect, c'est un pari qui vous donne envie ?
Si c'est un pari où on continue à avoir des boutiques avec la possibilité d'accueillir les gens, si c'est un outil supplémentaire, le click and collect, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent sur place. Ce dont nous ne voulons pas, ce sont des vitrines fermées et effectivement un pari où toute cette diversité disparaît. Donc on est attaché parce que le commerce est aussi un lieu de lien social, de sécurité dans les quartiers, de développement économique et d'emploi parce que, je suis désolée, mais un emploi dans le commerce digital, c'est 3 emplois dans un petit commerce de proximité. Donc il y a un vrai sujet de société aussi, de consommation. Et d'ailleurs, ça a été dit, je pense qu'aussi dans la proximité, il y a l'idée de l'authenticité, il y a cette idée du contact humain. Et il y a une forme de paradoxe aussi, effectivement, dans la consommation aujourd'hui, où il y a à la fois ce besoin-là et un besoin, effectivement...
Il faut réinventer le commerce de proximité, si je comprends bien.
Mais il se réinvente aussi, pour certains, effectivement. Mais notamment, on a vu que les boulangers, puisque vous parliez des boulangers, ont fait un énorme travail depuis des années sur la question de la qualité. Et qu'aujourd'hui, ils sont imbattables. C'est-à-dire qu'il y a peu d'autres endroits où on peut trouver un bon pain. Enfin, la grande distribution n'a pas réussi à suivre complètement, par exemple.
Vous nous parliez des aides, Olivia Polsky, avant d'écouter les Parisiens qui vous nous expliquaient comment ils consomment avec la crise. Pour les aides, pour ceux qui nous regardent, on doit se dire, bah oui, bien sûr, il faut se réinventer, etc. Le numérique, c'est très bien. Là, il y a des aides d'urgence en ce moment, en raison de la crise sanitaire. Est-ce qu'elles vont être pérennisées sur le long terme ?
C'est compliqué de vous le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la foncière, ce qu'on veut faire...
Ça peut être aussi un projet pour Paris, sur le long terme.
Oui. Enfin, je veux dire, les aider, nous, je vous dis, on avait commencé avant, par exemple, avec Costaud, avec la CMAEST, un travail sur le réseau. On a mis en place un certain nombre de choses, notamment autour de l'artisanat. Enfin, donc oui, on soutient et on continuera de soutenir. On a mis en place, par exemple, on voit bien que des lieux hybrides, puisque vous parliez de la mutation du commerce de proximité, on voit que de plus en plus, la tendance est vers ce qu'on appelle un commerce expérimental. C'est-à-dire où les gens vivent autre chose, et notamment avec du contact, du conseil, et les lieux hybrides, ça fait partie par exemple de ces tendances-là. On a installé un certain nombre de librairies dans Paris, mais avec un concept un peu mixte, c'est-à-dire librairie, salon de thé, exactement. Oui. Et c'est de faire ce genre de choses qu'on accompagne.
On va justement écouter les Parisiens à présent. On leur a posé une question sur un des marchés de la capitale. Qu'avez-vous changé à votre façon de consommer depuis le début de la crise sanitaire ?
On achète peut-être un peu plus bio. Bon, on achetait déjà bio, mais ça a peut-être renforcé effectivement cette consommation-là. Et puis, on fait plus la cuisine, forcément, puisqu'on peut moins aller dans les restaurants ou acheter des choses toutes prêtes. Donc, c'est vrai qu'on cuisine un peu plus.
Dans les commerces de proximité, j'achète beaucoup plus de bio qui vient de la proximité de Normandie.
Là, j'achète des trucs un peu plus bio. Et puis... j'achète des trucs à proximité de la maison aussi. S'il y a un magasin à côté de la maison, j'achète mes trucs.
Bon, le bio, le local, c'était dans toutes les bouches en tout cas. Vincent Golin, est-ce que ça se traduit dans les chiffres ? Est-ce que, en quoi finalement la consommation locale et le Covid ont un rapport ?
Alors, en effet, je pense que la crise sanitaire et le confinement au début, puis finalement a accéléré une mutation qui était déjà en cours chez nos habitants, finalement. C'est de se dire, on se pose des questions quand même sur notre mode de consommation. Je pense que, objectivement, hein, progressivement, la société de grande consommation des années 50-60 est en train de disparaître.
Ça, c'est terminé.
Progressivement. C'est-à-dire que, du coup, je cherche du sens dans mon achat, je cherche de la responsabilité social, environnemental, je cherche de la proximité. Et ça, on le voit, puisque en fait, les Franciliens, quand on les a interrogés, 43% d'entre eux ont dit, mais moi, je vais acheter plus local, plus dans la proximité, mais je cherche ce sens. Alors, beaucoup de vos téléspectateurs et des personnes qu'on a interviewées ont parlé du bio. En Ile-de-France, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 4700 exploitations. Il y en a aujourd'hui 225 qui sont en bio, mais ça progresse fortement. Parce qu'il y a cette demande des consommateurs, c'est poussé par les pouvoirs publics, les collectivités qui achètent pour elles-mêmes, mais qui achètent aussi et qui poussent les distributeurs à acheter du bio local. Parce qu'on peut avoir du bio qui vient de l'autre bout du monde, ce qui pose d'autres problèmes.
Ce qui pose d'autres problèmes. Ce n'est pas tellement le sujet là. Justement, donc, on a bien compris, hein, y a une demande de locale presque éthique, hein, de mieux consommer. François Monboisse, je me tourne vers vous justement pour réagir à cela. Est-ce que le commerce en ligne est capable de répondre à cette attente éthique de consommer mieux ?
Oui, enfin sur le bio, il y a du bio qu'on peut acheter en ligne tout à fait. Hein. Ne sous-estimons pas quand même la demande de premier prix. Hein. Vous avez vu les images extrêmement fortes de queues d'étudiants qui veulent ce qu'on appelait des soupes populaires, hein, il y a quelques temps. Il y a beaucoup de gens qui, avec cette crise, ont des baisses de pouvoir d'achat terribles. Donc il y a des gens qui peuvent se payer du bio, c'est très bien, mais il y a aussi des gens qui vraiment sont sensibles au premier prix, il faut que la distribution, dans ce cas, puisse servir toutes ces populations. Mais oui, les gens ont conscience globalement de faire un achat plus responsable qu'il y a quelques années, oui, c'est évident.
Olivia Polsky, justement, on va parler un peu de votre label Made in Paris. C'est intéressant parce qu'en effet, il faut penser à tout le monde et les premiers prix, c'est encore intéressant. Est-ce qu'on est capable de faire du Made in Paris abordable pour toutes les catégories sociales parisiennes ?
Alors, on a lancé un label Fabriqué à Paris avec cette idée justement qu'on voulait que ce soit pour toutes les bourses. Donc, ça va effectivement des petits objets, parce qu'aujourd'hui, on a des petits objets pas chers qui peuvent être fabriqués à Paris, jusqu'à effectivement, notamment tout ce qu'on appelle l'artisanat d'art et qui va effectivement dans des prix plus élevés, mais l'idée c'est de développer des choses plus accessibles pour tout le monde.
Et ça fonctionne ?
Et ça
fonctionne.
Made
in Paris, votre label, il fonctionne sans
le label fabriqué à Paris, il cartonne. Vraiment, on a énormément de candidats, énormément de gens. Enfin, ça a été dit, il y a quand même une aspiration à aller vers des gens que les gens connaissent, savoir où aussi va l'argent des consommateurs. Je pense que c'est... Oui, je pense que ça fait partie de cette demande. Après, ce monsieur a raison, c'est-à-dire qu'on vit aussi une crise économique majeure et il y a une demande notamment, par exemple, en aide alimentaire qui s'accroît. De fait, on a un taux de chômage qui est augmenté de près de 30%. Donc forcément, ça a des conséquences pour les gens dans ce qu'ils peuvent acheter, quoi.
Selon vous, Olivia Polsky, durant cette crise sanitaire avec les changements de comportement, on les a un peu brossés hein, dans notre consommation, qui sont les gagnants, qui sont les perdants ?
L'alimentaire
est binaire,
mais l'alimentaire, on l'a vu, s'en sort beaucoup mieux. Et effectivement, on voit aussi une vraie progression, d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, de tout ce qui est santé, bien-être. Mais je pense que ça vient aussi dans cette idée d'avoir du sens, de reprendre contact avec soi, avec la nourriture, mais aussi avec soi-même. Et puis, effectivement, bah, après, il y a tout le secteur. Alors là, par contre, voilà, de l'hôtellerie, de la restauration, de l'habillement,
bien sûr,
en grande difficulté.
Et qui est en difficulté.
L'artisanat d'art, tout ce qui est lié au tourisme est complètement dévasté. Enfin,
Vincent Golin, pour l'après-crise, quelles sont les tendances que vous pourriez observer ? Est-ce qu'on va continuer sur cette lancée ? Est-ce que ça va continuer à se creuser finalement ou on pourrait rebasculer dans quelque chose d'un peu plus équilibré ? Vous n'êtes pas devin, hein, je suis d'accord.
Voilà, mais on sait en fait qu'on va être sur une reprise en escalier. Hein, c'est ce qu'on voit depuis un an. C'est que progressivement, on ouvre, on ferme un peu à l'échelle internationale, locale, etc. Donc on va rester dans une situation compliquée pour la région Île-de-France, compliquée pour la ville de Paris, parce que de fait, on va... Ces touristes ne sont pas là, ils ne sont pas prêts de revenir en masse. Or, c'est quand même ça injecte énormément de milliards d'euros dans l'économie parisienne et francienne sur des métiers qui sont très dépendants dans leur chiffre d'affaires de ces types de consommateurs. Après, c'est vrai que on a aussi la crise, son impact, c'est qu'il y a 16% de... Je rebondis sur ce que disait monsieur tout à l'heure. Il y a 16% de franciliens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il faut s'en occuper. Il faut encore plus s'en occuper demain. Et en effet, c'est une préoccupation qui est importante. Et donc, on voit bien qu'il y a besoin de développer des services et qu'ils puissent accéder à des produits, à des tarifs qui sont...
Et la mairie de Paris saura répondre à cette demande ?
Ah bah alors par exemple, vous voyez, ce que Anne Hidalgo a souhaité lancer, c'était une coopérative qui s'appelle Agri Paris, avec cette idée justement de développer le maraîchage bio en proximité pour pouvoir par exemple répondre à une offre de restauration scolaire d'abord, dans un premier temps, et une offre accessible à tout le monde. Donc ça fait partie des choses effectivement...
Et ça sera quand ça ?
Ah bah c'est en train d'être mis en place par Audrey Pulvar, donc... Voilà, c'est en route.
Merci. Vous donner trois exemples complémentaires.
Alors, on va devoir terminer. J'ai une dernière petite question surtout à poser à Olivia Polski. Merci beaucoup, Vincent Golin. Merci également à François Monboise d'être intervenu dans cette émission. Olivia Polski, donc j'ai une dernière question à vous poser. Les restaurants sont toujours fermés, mais les terrasses éphémères restent. Des riverains se plaignent de leur présence. Elles sont mal entretenues, provoquent des attroupements. Qu'avez-vous prévu ces prochaines semaines pour remédier à ces nuisances?
Alors, on a déjà commencé, parce que quand on nous fait des signalements, moi j'incite les Parisiens effectivement à signaler ce genre d'endroits dégradés via l'application qui s'appelle Dans ma rue. Et après, effectivement, on a nos services qui
apparemment
passent.
Apparemment, ça ne suffit pas, puisque certains riverains s'en plaignent.
Après, ce qui est difficile, c'est que comme les restaurateurs sont fermés, ils ne sont pas forcément facilement joignables. Donc, c'est difficile parce qu'on n'a pas le droit de prendre sur l'espace public des choses.
Donc, pas de solution pour l'instant.
Si, on y travaille. Si, bien sûr, il y en a un certain nombre qui ont même été démontés et avec lesquels ça s'est fait très bien. Je dis juste qu'il peut y avoir résiduellement des situations là où, notamment, on a des difficultés pour joindre les restaurateurs.
Merci beaucoup Olivia Polski d'être venue en Paris Politique. Merci à tous nos intervenants. Paris Politique, c'est terminé. L'actualité continue sur BFM Paris.